Merci pour la présence du Seigneur ce matin, au milieu de nous. On le sent au travers des louanges et des chants. Nous ne sommes pas concertés avec tout ce qui ont composé la liturgie, mais j'ai l'impression que tout le message que je suis appelé à vous amener ce matin est déjà exposé. On aurait pu même chanter et prier et partir. Voilà. Je vous invite à la prière pour nos chers frères et sœurs qui sont en difficulté de santé. Je crois que le Seigneur a besoin de faire grâce. Je sens une onction ce matin pour laquelle on peut prier et Dieu peut relever. Voilà. Moi, souvent, quand les autres souffrent, je le sens dans ma tête. Il y a une sorte de poids qui me pèse. C'est comme si je portais un fardeau. Et donc, quand je prie et que ça se dégage, j'ai l'impression que la personne obtient la grâce de Dieu. Donc, je vous invite à la prière. On va prier pour tout ça. Voilà. Seigneur, tu as dit dans ta parole, déchargez-vous sur moi, votre Dieu, et que c'est moi seul qui prends soin de vous. Car de ce qui vient de toi, l'homme est incapable de prendre soin de lui-même, sinon son corps. Mais les autres dimensions de son être relèvent de toute ta force, de toute ta présence. Tu nous as donné un corps qui est un véhicule dans lequel nous sommes appelés à vivre. Mais parfois notre corps peut être une prison, un tyran. Il peut nous imposer des tortures de toutes sortes. Mais Seigneur, ce matin, nous voulons chacun individuellement nous amener devant toi, sous le sang précieux de Jésus. Recommander notre frère, Christian Boisson, dans son état, depuis pas mal de temps, notre frère est toujours en conflit avec sa situation de santé. Nous te prions de lui apporter la paix dont son âme a besoin. Nous te recommandons, Seigneur, Jean-Yves, avec son dos, tout son être également. Au niveau de la famille, Seigneur, il y a une sorte de chape de plomb qui pèse pour écraser cette famille. Et ensemble avec Jésus, nous nous relevons pour dégager les cieux, proclamer la puissance de Christ. Car Jésus a triomphé de toutes ces forces de ténèbres qui tentent de nous opprimer, qui tentent de nous briser, qui tentent de ôter notre joie, qui veut briser notre espérance. Et ce matin, Seigneur, que ton esprit nous soit accordé. Donne-nous la sagesse des disciples pour écouter ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. On va lire 6 petits bouts de texte qui définissent le fil conducteur de notre prédication ce matin. On va commencer par la lecture. Et je vais essayer de vous présenter d'une manière succincte cette pensée du Seigneur. Essayez de voir le son, si tout le monde entend bien. Parce que quand je vais à la maison de la santé, les gens ne se plaignent pas parce que le son, il est bon. Ça suppose que c'est parfois les qualités de son qui peuvent déterminer notre voix, oui ou non. Voilà. Car ainsi parle l'Éternel qui a créé les cieux, lui le seul Dieu qui a façonné la terre et l'a formée. Lui qui l'a affermie, il ne l'a pas créée vide, il l'a façonnée pour qu'elle soit habité. Vous avez bien lu là. Je suis l'Éternel et il n'y a point de moi d'autre Dieu. Le suivant, Proverbe. L'Éternel a tout fait. On aurait pu mettre le tout en majuscule, mais ça vaut ce que ça vaut. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Suivant. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux êtres humains. Et la terre t'appartient. Parfois le diable, il se trompe. Hein. Il a même allé voir Jésus, il a dit que « Mais si tu m'adores, je te donne la terre. » Mais la terre appartient à qui là? Souvenez-vous des premiers événements. Ne faites pas mémoire des choses qui sont passées. Souvent, on vit dans le passé, on dit que le passé il est meilleur, mais attention. Souvenez-vous des premiers événements. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Ça, c'est Dieu qui parle là. Je suis Dieu, et rien n'est semblable à moi. Continuons. C'est Dieu qui parle. J'annonce dès le commencement ce qui vient par la suite.
et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mon projet tiendra bon et j'exécuterai tout ce que je désire. Alors, il reste deux petits textes. Ça, c'est dans Éphésiens. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus, Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et le dernier, Éphésiens 2:10, que nous connaissons tous, car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes, pas pour les bonnes œuvres, pour les œuvres bonnes, justes, pertinentes. Parce que X ne peut pas faire une œuvre bonne à la place Y. Chacun fait son œuvre. Pour les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Prions. Seigneur, merci pour ton message. Elle était inspirée par ton esprit. Et accorde-nous de les comprendre comme tu veux que nous le comprenions. Au nom de Jésus. Amen. Alors, si je dérive avec le temps, faites-moi signe. Hein. Parce que souvent, quand on le prie dans le feu, on ne se rend pas compte. Quand le Seigneur Jésus ordonne le plus souvent à chacun des malades qui vient de guérir, « Suis-moi. » Quand il s'adresse par moments aux disciples, qui eux sont versés dans leurs activités séculières pour gagner leur vie, il dit « Toi, abandonne tout, suivez-moi. » Qu'entendons-nous par cette expression « Suis-moi » ? Parce que si nous comprenons profondément le sens de cette expression, notre perception de la vie spirituelle n'est plus pareille. Qu'entendons-nous par « Suis-moi » ? Deux mots. Deux mots qui contiennent à eux seuls tout un monde. Cette expression renferme des réalités très profondes et qui sont des réalités spirituelles qui peuvent être différentes de chacun d'entre nous, même si elles renvoient aux mêmes fondamentaux. Servir Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que servir Dieu? Vous vous êtes posé cette question? Un jour, je me suis arrêté, je dis, Seigneur, c'est quoi? Te servir. Venir annoncer la parole de Dieu, pour moi, à mon niveau. Venir à l'église, faire des activités dont on a besoin pour le fonctionnement de l'église, ça va plus loin que ça. Ça va plus loin que ça. Même celui qui ne croit pas en Dieu, il peut servir Dieu. Il peut servir la cause de l'évangile. Il peut servir le règne du Seigneur. Et donc la question n'est pas celle-ci. Cette question, elle se pose depuis toujours. Et elle doit se poser dans la vie chrétienne. Et lorsqu'elle se pose à nous, nous trouvons une réponse dans la parole de Dieu, que je voudrais vous dire au passage que la Bible que nous utilisons n'est pas un livre religieux. N'est pas un livre religieux. C'est l'histoire d'un monarque. C'est l'histoire d'un roi. Et de ceux qui composent sa famille. Et de la manière dont ce royaume est appelé à fonctionner. Voilà pourquoi nous avons lu tout ce texte. Dieu, il est au ciel, il a créé la terre, et il veut que la terre soit habitée par qui? Pas par les dinosaures. La terre doit être habitée par les hommes. Et vous savez, de la création de Dieu, l'être humain est une création spécifique. Dans Psaume chapitre 139, Dieu a dit, « Oh, Seigneur, tu m'as créé une créature merveilleuse. » Peu importe la façon dont tu es venu au monde, ce n'est pas ça qui intéresse Dieu. Parce qu'il y en a d'autres, cette question leur colle au basket et ils n'arrivent pas à s'en sortir même en devenant chrétien. Peu importe. Tu es venu par le viol, tu es venu par n'importe quelle manière, ce n'est pas ça le problème de Dieu. Maintenant, lorsque tu es avec le Seigneur, que fais-tu? Voilà toute la question. Pourquoi sommes-nous sur terre? Qui suis-je? Et la science a essayé d'expliquer cette situation à sa manière. Voilà l'objet de cette
pensée que j'aimerais partager avec vous ce matin. Si nous considérons que cette Bible n'est pas un livre religieux, mais que c'est plus qu'un manuel pour nous indiquer le chemin que nous devons suivre, des questions s'imposent à nous. D'où est-ce que je viens? À qui j'appartiens? Qu'est-ce que je fais sur la terre des hommes en cette période? Et plus encore, qu'est-ce que c'est qu'être chrétien, appartenir à Dieu? Nous pouvons affirmer sans risque de nous tromper que le plan de Dieu pour l'humanité est d'associer l'humanité à son règne. Tout est dit là. Qui règne? C'est un roi qui règne. L'homme est établi comme un intendant, c'est-à-dire celui qui reçoit de la part de Dieu des instructions, les moyens, les possibilités pour agir au nom de ce Dieu-là. Sauf que le drame du jardin d'Éden s'est produit. Mais ce drame n'est qu'un accident de parcours, mes bien-aimés. L'homme, au lieu de choisir la voie de Dieu, il a choisi la voie de la mort. Il a choisi l'esprit d'indépendance pour se détacher de Dieu. Et cette voie choisie, bien sûr, par l'homme, est de nature à compromettre le plan de Dieu. Mais c'était sans compter que Dieu a plus une corde dans son arc. L'homme ne peut pas compromettre le plan de Dieu. Je peux vous avouer. Aucun être sur terre ni dans le ciel ne peut empêcher Dieu d'accomplir son travail. Son plan, il a élaboré depuis la fondation des temps. Celui de préparer ce qu'il appelle à vaincre le péché, à vivre une vie consacrée, en développant le caractère du juste, à croître dans sa grâce, dans la connaissance de sa volonté, et par-dessus tout, à prendre possession du royaume et de le vivre selon les cultures que Dieu nous a données, autrement dit, la culture du ciel, qui est complètement inversée de l'ordre de la culture du monde dans lequel nous vivons. Qui est le plus grand? N'est-ce pas celui qui a plusieurs serviteurs, qui a plusieurs, beaucoup d'argent, et que les gens sont à son service? Si vous prenez ce principe, vous mettez dans la parole de Dieu, Jésus l'inverse. Le plus grand est celui qui sert, et celui qui lave les pieds. Et il en a fait une démonstration en lavant les pieds de ses disciples. Ce que le monde considère comme vrai, Dieu le considère comme faux. Voilà pourquoi la dynamique du monde a toujours tendance à prendre ce qui est vrai pour faux et à prendre ce qui est faux pour vrai. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste en raison de notre union avec le Christ. Voilà la condition. C'est vrai qu'il y a une grâce générale de bénédiction que Dieu donne à tout le monde. Dites-moi ce matin, le soleil s'est levé sur tout le monde. Que celui qui a injurié Dieu cette nuit, comme il faut, le soleil se lève pour lui. Que celui qui attaque les chrétiens dans le monde entier, le soleil se lève pour lui. Il a de l'air pour respirer. Cette grâce, Dieu le donne à tout le monde. Mais il y a une grâce spécifique qui n'est pas accordée à tout le monde, qui n'est accordée à ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ. Autrement dit qu'ils ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur, dont le péché est pardonné, d'abord, être en Christ nous donne plusieurs statuts. Je vais en citer sept, sans développer. Enfant de Dieu. Quand on dit enfant de Dieu, n'est pas simplement dans le sens génétique, mais c'est dans le sens juridique. Dans notre relation désormais avec Dieu, nous sommes devenus enfants de Dieu par le Christ, qui est l'enfant du Père. Et c'est par Jésus que nous sommes devenus enfants de Dieu. Dans le sens où nous sommes héritiers de ce qui appartient à Dieu. Deuxièmement, nous sommes sauvés par grâce, et nous l'avons lu, dans Éphésiens chapitre 2, verset 10. Que ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Afin que personne ne mette sa gloire dans les hommes. Nous sommes devenus une nouvelle création. Ça suppose qu'il y a une ancienne création qui n'a pas abouti selon le plan divin.
Et comme un potier, Dieu prend le monde, il le malaxe et il le reprend encore à nouveau. Et ça, c'est en Jésus. Souvenez-vous, quand Dieu a tout créé, comment il a créé l'être humain? Parce que quand Dieu parle, les choses apparaissent. Il parle au ciel et les étoiles apparaissent. Il parle à la terre, les végétations apparaissent. Il parle à la terre, les animaux apparaissent. Mais quand vous lisez Genèse chapitre 1, verset 26, il arrive, celui, il a dit, faisons, il s'adresse à lui-même, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et image et ressemblance n'est pas une image de ressemblance en termes d'image picturale, c'est en termes de nature. Le mot ressemblance signifie fonctionnement. Dieu me crée pour que je fonctionne comme lui. Voilà pourquoi du ciel, il nous a fait envoyer sur la terre. En acceptant Jésus comme sauveur et Seigneur, c'est comme si Dieu nous a envoyés sur terre. C'est pour ce qu'il vous a dit, attention, je vous envoie comme des brebis parmi les loups. Soyez prudents comme les colombes, hein, et simples comme les colombes et prudents comme les serpents. En acceptant Jésus, nous parachutons du ciel sur terre, mais cette fois-ci avec les valeurs du ciel. Dieu avait donné la terre aux hommes d'être habités, mais l'homme, en se soustrayant à l'autorité de Dieu, a laissé une autre entité prendre la relève. Et au lieu que nous puissions dominer, c'est nous qui sommes dominés par le diable. Troisième élément, en acceptant Jésus, nous sommes membres du corps de Christ, héritiers de la promesse, et plus que tout, temple du Saint-Esprit. Alors, je discutais avec quelqu'un hier soir, il me dit que je peux croire que Dieu est Dieu le Père. Ça, c'est pas de souci. Jésus-Christ, je crois, il est venu sur terre, on en parle. Ça, il nous a sauvés. Mais je ne peux pas admettre que le Saint-Esprit habite dans quelqu'un comme moi. Ah, mais je dis que tu as tout faux. Parce que si tu ne crois pas à ça, tout ce que tu as cru avant ne sert à rien. Ah oui. Si tu ne crois pas que le Saint-Esprit habite en toi, ta croyance de ce Dieu-là n'est pas le vrai Dieu. Et ta croyance de Jésus n'est pas le vrai Jésus. Il nous a appelés à la sainteté, c'est-à-dire sanctifiés pour la gloire de son nom. En Christ, nous avons une nouvelle identité. Et notre identité ne dépend pas du fait que nous sommes issus d'une grande famille ou petite famille. Notre identité est en Christ. Les gens recherchent leur identité dans beaucoup de choses. Même nos jeunes, ils voient des stars, ils veulent les copier. Ils copient leur manière de se coiffer, leur manière de s'habiller. On cherche toujours des idoles. On cherche quelqu'un à copier. Mais ne cherchez pas loin notre identité. Notre identité est en Christ. Ne faites plus mémoire des événements passés. Ne songez plus aux choses autrefois. Car voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la voyez-vous pas? Oui, je vais faire passer mon peuple par le chemin désertique, des fleurs et des lieux arides. Et la végétation va y pousser. C'est une prophétie, là, dite par Ésaïe. Elle a été dite à quel moment? Ça nous permet de nous situer. Cette prophétie, bien que particulièrement inspirante, elle a été proclamée à un moment où le peuple de Dieu était en captivité. Le prophète intervient à un moment tragique du peuple d'Israël, le peuple de l'Alliance. C'est une période de grande catastrophe. Israël a été rasé. Le roi Nabucodonosor a conquis Jérusalem. Il a mis le feu à la ville. Il a détruit le temple, qui est le lieu symbolise la présence de Dieu. Il a tué tous les fils du roi et il a déporté quelques-uns à Babylonie et une partie de la population. Et c'est un deuil. Non seulement un deuil national, mais c'est un deuil liturgique parce que les gens n'ont plus le temple pour adorer Dieu. Nous ne l'avons pas encore, le deuil liturgique. Ça le sera tardé. Et ça se manifeste déjà sous plusieurs formes. On met beaucoup plus de poids sur l'Église, à l'heure actuelle, l'Église de Christ. Et faites ceci, vous ne faites pas cela, ben vous serez en infraction, risque de fermeture. Mais le grand deuil, c'est l'absence de la présence de Dieu. Souvenez-vous qu'Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden quand ils ont perdu la présence de Dieu. C'est une richesse que nous devons chercher, sur laquelle veiller, c'est la présence de Dieu, mes bien-aimés. Ne la quittez pas. Quoi qu'il arrive, qu'on vous écrase, qu'on vous malmène, que tout va de travers, je vous en supplie, ne lâchez pas la présence de Dieu. Le prophète Samuel dit aux enfants d'Israël, vous avez commis tous ces péchés les plus ignobles. Bon, en tant que prophète, je vous dis une chose, n'abandonnez pas Dieu. Même si vous avez commis le péché, il va vous frapper. Mais comme c'est lui, il vous frappera de telle manière qu'il vous apprenne quelque chose. Parce que Dieu ne va pas vous tuer. S'il vous tue, il ne vous apprendra rien. Il ne va pas vous tuer. Il va vous frapper de telle manière que vous ne mouriez pas, mais que vous vous relevez grandi. Et donc la souffrance fait partie du plan de Dieu. Et j'en arrive à l'image du potier. Dieu, il est potier. Il est dit dans la parole de Dieu, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. »
Ah oui.
Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile, dit-elle à celui qui l'a façonné, que fais-tu? Je n'ai jamais vu l'argile discuter avec le potier. Dieu nous a extraits de la terre et il s'est manipulé la terre, Dieu. Superbe potier. Il te fait, après il voit la forme. Ah, il dit non, 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 je voulais que ça soit différent. Et quand ce n'est pas bon, il le casse, il le refait. Dieu ne pourrait que mettre sa marque et quand il aurait fini. Écoutez, vous avez le téléphone, vous avez beaucoup de matériel, même les habits, nous les avons. Alors, je suis en train de voir comment on fabrique les téléphones pour qu'ils puissent utiliser toute sa fonctionnalité. Waouh ! Nous l'utilisons rapidement, mais nous ne savons pas le travail qui était derrière. C'est comme les voitures. On combine, on teste. Il faut tester chaque domaine, chaque machin. Les clignotants que vous mettez, les klaxons que vous faites, les systèmes automatiques que vous faites, tout ça doit être testé. Et une fois testé dans tous les domaines et que tout est OK, alors hop, on met la marque. Et Dieu ne mettra sa marque de Dieu sur notre vie que quand il aurait fini de nous retourner dans tous les sens et de le faire passer par le four pour que le pot soit solide. Ah, on n'en a pas fini avec le Seigneur. Hein. Ou alors, il n'en a pas fini avec nous. Hein. Je vous annonce une nouvelle là. Si vous pensez que Jésus est venu simplement pour nous soigner nos bobos, pour que nous vivions une vie convenable, pour que les gens disent que ah, ce sont des chrétiens, ils ont un Dieu qui est puissant, vous vous trompez. Ah, vous vous trompez lourdement. Dieu n'est pas venu pour soigner les bobos. Il soigne les bobos au passage. Et parfois, les bobos ne les soignent pas. Parce que ce n'est pas ça qui l'intéresse. Il veut que nous régnions avec lui. Et pour cela, il faudra que nous devenions une nouvelle créature. Non seulement dans notre ADN, mais dans notre manière de voir les choses. Nous chaussons les lunettes du ciel et nous regardons les choses comme Dieu les regarde. L'apôtre Paul était en prison à Rome. Ça aurait été nous, on se dit, Seigneur, nous t'avons servi, comment se fait-il que nous t'avons servi et que nous nous retrouvons entre quatre murs? Quand vous lisez l'apôtre Paul, on a l'impression que quand on a enfermé son corps, c'est là où son esprit est encore beaucoup plus libre. Dieu veut nous montrer que le monde ne peut pas nous accueillir dans l'état actuel. Bien que nous avons été envoyés pour gouverner le monde, mais par notre faute, nous nous sommes retrouvés dans une position dominée. Jésus est venu rétablir les choses, en nous recréant lui. Dieu a utilisé la terre et il a soufflé dedans. L'homme est devenu un être vivant. Mais dans la seconde recréation que Dieu est en train de faire, il ne fait pas la même chose. Nous sommes déjà construits. Il souffle en nous par sa parole et la transformation commence à l'intérieur. Et ça fait craquer tout ce qui est humain en nous pour que l'image de Christ apparaisse. Voilà le plan du potier. Et ça fait mal parfois. Mais nos pleurs n'émeuvent pas Dieu. Ah non, non, vous vous trompez. Dieu regarde autre chose que nos pleurs. Nos pleurs ne l'arrêtent pas. Il va aller jusqu'au bout. Si les pleurs pouvaient arrêter Dieu, Dieu aurait arrêté le processus de la mort de Jésus. Quand Jésus voyait la coupe qui venait, il a peur. Ah ouais, il a peur. Seigneur, qu'il plaise à toi si cette coupe s'éloigne de moi. Après, il a dit, ah non, 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 non ma volonté, mais ta volonté soit faite. Et la volonté de Dieu, c'est que nous allions jusqu'au bout. Sinon, il ne met pas la marque sur nous. Tous les produits qui finissent comme il faut, testés dans tous les sens. Voilà, vous mettez maintenant le losange, vous mettez le lion et vous mettez la marque de Dieu. Même si potentiellement Dieu nous a déjà vus dans ce sens-là. C'est pour ça que tout ce que vous vivez dans votre vie fait partie du plan du Seigneur. Les pleurs que vous éprouvez chaque jour font partie du plan du Seigneur. Les difficultés que vous éprouvez chaque jour pour Dieu, c'est un coup de burin qui est en train de donner la forme de Jésus en vous. Si votre tête est trop lourde, il commence à taper la tête pour que ça soit allégé. Si les pieds ne sont pas aptes, il commence maintenant à faire en sorte que vous puissiez être bien musclé. Et donc Dieu nous travaille pour que nous soyons à l'image de Christ. Et tout ça pour faire quoi? Pour nous envoyer dans un monde fracturé. Un monde blessé. Un monde où on ne vit que sur le principe de séparation et de frontières. Regardez le monde. Si vous prenez l'avion, vous allez en Afghanistan, d'abord, la manière de s'habiller change. Voilà. Et quand vous voulez saluer les gens auront un autre code de conduite. Ce n'est plus pareil. Vous quittez, si vous allez chez les pygmées, c'est pareil. Le monde a toujours fonctionné sur les principes de frontières, depuis la tour de Babel. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Pour dire que si l'homme voulait apporter une solution humaine à un problème qui est spirituel, qu'il échoue, qu'il soit obligé de recourir à Dieu. Et c'est pour ça que Jésus est venu, pour ramener tout ce qui est séparé en un seul. Il a défini les lois au peuple juif, il fixait les frontières. Quand vous obéirez à mes commandements, vous serez mon peuple. Autrement dit, ceux qui n'obéiront pas à mes commandements ne sont pas mon peuple. Ça, c'était au début, ça. Et les juifs avaient pensé que Jésus était venu que pour eux, mais pas pour les autres. Quand Jésus venait pour faire le miracle à une samaritaine, ou pour guérir le fils d'un centenier, il commence à dire, ah, tu es venu pour nous, tu n'es pas venu pour eux. Jésus a dit, mais hé, comprenez, Jésus a brisé les frontières et il a fait de nous un peuple qui lui appartient. Juifs et gentils deviennent le fondement d'un seul peuple. Jésus a anéanti les frontières par le souffle de son esprit. Et il se fait un nouveau peuple que vous et moi, nous faisons partie. Et pourquoi? Pour que nous puissions être le relais de Dieu là où Dieu nous a établis. Lumière pour certains, sel pour d'autres, ambassadeur pour certains. Et c'est ainsi que nous devons évoluer sur la terre, en attendant que Jésus vienne racler toutes choses, remettre un nouveau ciel et une nouvelle terre, pour qu'à nouveau, nous repartons pour un cycle avec le Seigneur. Nous ne sommes pas en promenade de santé, mes bien-aimés. On est en mission. Et vous qui avez des missions accomplies dans votre métier, vous savez ce que je vous dis. Vous avez un compte rendu à faire. Et nous aurons un compte rendu à faire. Parce que Dieu ne nous a pas envoyés comme ça. Il nous a envoyés avec des dons. Chacun d'entre nous a quelque chose de la part du Seigneur. Ne vous croyez pas insignifiant. C'est diabolique de dire que moi je ne sers à rien dans cette église-là. Ou... Non, 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 non. Chacun a sa place. Si vous avez le sentiment que vous ne servez à rien, c'est parce que vous n'avez pas encore compris, que vous n'avez pas encore trouvé votre place. Tout le monde a quelque chose de la part de Dieu. Et pas pour ailleurs, pour ici. Parce que Dieu a de l'espace. Il est comme un jardinier. Il met chacun à son endroit pour travailler. Et nous, nous sommes ici munis d'une mission. Une image de Christ que nous devons faire voir au monde. Et j'en arrive au dernier point. À travers l'Église, la puissance de Dieu doit se manifester. L'apôtre Paul a dit, « Je dois mettre en lumière pour tous les humains. » La façon dont Dieu réalise son plan, lui qui est le créateur de toutes choses, il a tenu caché ce plan depuis toujours, afin que maintenant, grâce à l'Église,
les autorités et les puissances du monde céleste puissent connaître la sagesse divine sous tous ses aspects, grâce à l'Église, que le monde et les puissances à l'heure actuelle connaissent la force de Dieu sous tous ses aspects. Vous pensez qu'à travers qui Dieu veut faire ce travail? Si ce n'est pas à travers nous. Vous voyez le sens de votre vie? Il n'y a plus qu'à se mettre en train de traîner. Quand vous vous levez le matin là, vous vous levez pourquoi? Et si c'est ça qui nous anime, nous pouvons aller loin avec le Seigneur. Vous n'êtes pas venu simplement pour mener des santé sur terre. C'est Dieu qui nous a envoyés pour faire un travail particulier. Celui d'être le reflet de sa gloire. Qu'au travers de nous, des valeurs soient rétablies. Qu'au travers de nous, ce qui est tordu soit redressé. Des belles paroles qui peuvent édifier, qui construisent. On ne parle pas comme le monde, on n'agit pas comme le monde. Nous avons notre valeur à nous, les cultures du royaume de Dieu. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur cette terre, comme où? Au ciel. Voilà notre enjeu, mes bien-aimés. Et ça, Dieu ne nous laisse pas démunis. C'est lui qui donne le pouvoir et le faire. Vous me direz, faux. Nous avons tout reçu quelque chose de la part du Seigneur. Si vous avez le sentiment de n'avoir rien reçu, il est temps maintenant de s'arrêter, de lui dire, Seigneur, quelle est ma part? Qu'est-ce que je suis censé faire? Exactement. À travers l'Église, que Dieu voit tout. Alors je termine. Jésus est le modèle par excellence de vie dans ce bas monde, n'est-ce pas? De même que Christ est venu sur terre prendre la forme humaine et mener une vie d'homme conforme à la volonté de Dieu, nous pouvons, je dis bien, je certifie, nous pouvons, avec l'aide de son esprit, surpasser la nature humaine déchue. Les autres l'ont fait avant nous. Pourquoi ce n'est pas possible pour nous? Et ça, ce n'est pas de manière individualisée. Parce que certains pensent que pour vivre une vie saine, il faut fuir les autres et aller tout seul se mettre dans un monastère. Faux. C'est en étant ensemble, sans se frottant, en se querellant. Et parfois que nous grandissons. Parce que je peux développer en moi ce qui manque lorsque je me confronte avec mon frère. Si je suis quelqu'un de colérique et que moindre chose me met en pétard, je me dis, tiens, il y a un aspect qu'il faut développer pour que nous puissions vivre en communauté. Vivre en communauté, c'est l'objectif de Jésus. L'identité individuelle, d'abord, et ensuite l'identité des communautaires et l'identité d'un seul peuple. Dieu fait de manière progressive. Nous sommes à la maison. Nous sommes chez nous. On est des frères et des sœurs, pas par une naissance biologique, mais par la naissance spirituelle. Cette cause-là, personne ne peut l'effacer. Et Dieu le savait déjà depuis le commencement. Et il nous embarque dans cette aventure avec lui. Que Dieu nous rende capables de pratiquer tout ce qui est bien pour que nous fassions sa volonté. Qu'il réalise en nous ce qui lui est agréable par Jésus le Christ, à qui soit la gloire à toujours. Si dans Philippiens chapitre 4, verset 8, il nous a été recommandé de développer des pensées saines, ce n'est pas le psy qui va le faire. La Bible le dit déjà. Que tout ce qui est juste, tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, fasse l'objet de votre pensée. Mais c'est une bonne santé de l'esprit. Ah ouais? La Bible le prévoit déjà. Ne laissez jamais votre cœur être habité par l'amertume. Jamais. Ne dormez jamais sans avoir réglé une affaire. Ne laissez jamais quelque chose de négatif comme un venin ronger votre cœur. Videz-vous avant de vous coucher. Parfois vous faites des cauchemars parce que vous n'avez pas suivi cette discipline. Et Dieu est en train de vous parler. Car Dieu parle parfois dans les songes. Alors je termine avec ce verset d'exhortation. À ceux qui, par l'œuvre salutaire de notre Dieu et Sauveur Jésus, ont reçu une foi aussi précieuse que celle qui est dite dans la parole de Dieu, voici ce à quoi la Bible les invite. Je le lis. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire et à son œuvre merveilleuse. C'est-à-dire, nous sommes participants de la nature de Dieu. On voit Dieu, on nous voit. On nous voit, on voit Dieu. Nous sommes le bras de Dieu. Nous sommes la main de Dieu. Nous sommes la bouche de Dieu. Nous sommes les yeux de Dieu. C'est-à-dire, c'est là où Dieu veut travailler. Je continue. Pour cette raison, faites tous vos efforts, pas pour obtenir le salut est gratuit, mais pour qu'en ce qui concerne notre vocation, pour l'accomplir comme il nous faut payer le prix. Faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. À la bonne conduite, la vraie connaissance de Dieu. Et la vraie connaissance de Dieu, c'est par Jésus. À la connaissance de Dieu, ajoutez la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, la persévérance. Tu perces et tu verras. À la persévérance, l'attachement à Dieu. Tu vois, ça boucle là. Boucle. Enfin, à l'attachement à Dieu, ajoutez l'affection fraternelle. Avec l'affection fraternelle, l'amour qui vient du Saint-Esprit. Si vous avez ces qualités que je viens de citer, et si vous les laissez développer en vous, elles vous rendront actifs et vous font progresser dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Mais celui qui ne les possède pas, à la vue courte, il est comme un aveugle. Il oublie qu'il a été purifié de ses péchés d'autrefois et qu'il est censé vivre désormais pour le Seigneur. Je vous invite à la prière. Parlez à Dieu. Je ne prie pas aujourd'hui pour nous, mais que chacun prie pour lui-même. Seigneur, qu'est-ce que je suis censé faire? Montre-moi ce que tu me demandes de faire. Et après, nous allons prier pour tout le monde. Restons dans la prière. J'ai des séries de prières à formuler. Mais compte tenu de temps, je ne le ferai pas tout. Je veux prier pour que nos yeux s'ouvrent, que nous aimons Dieu avec une intelligence spirituelle et que le renouveau que Dieu a commencé à accomplir à chacun d'entre nous puisse arriver à son but. Car la Bible a dit, celui qui a commencé en nous cette belle œuvre, il le rendra parfaite jusqu'au jour de l'avènement du Seigneur. Nous sommes en construction. Nous ne sommes pas encore achevés. Il y a encore des bosses, il y a encore des points de fragilité dans notre vie pour que nous puissions porter la marque définitive de Dieu. Mais cela ne signifie pas que nous ne lui appartenons pas. Non, nous lui appartenons. Mais laissez Dieu comme un potier continuer à faire son œuvre en nous. Seigneur, nous nous recommandons entre tes mains, moi-même, en esprit, dans mon âme et dans mon corps également. Dans notre âme, il y a des foyers qu'il faut nettoyer. Que le souffle de l'Esprit de Dieu intervienne maintenant pour vider ce qu'il faille vider. Ces nasses qui retiennent parfois des choses qui ne sont pas recommandables, qui alourdissent notre âme et qui nous empêchent de regarder ton visage avec clarté, avec netteté. Nous ne parvenons pas à comprendre la profondeur de ce que tu représentes pour nous parce qu'il y a des points noirs, il y a des plafonds de verre qui sont au-dessus de nos têtes que nous ne parvenons pas à dépasser. Mais ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il veut nous tromper. Ton amour est plus fort et nous y croyons. Et au nom de Jésus, que chacun d'entre nous soit libéré, que le souffle de l'Esprit pénètre notre âme, que nos cellules, que nos tissus, que notre ADN soit visité par le souffle de l'Esprit et que tout en nous reflète ta grandeur. Respire la gloire de Christ, respire la vérité, respire la grandeur de celui à qui nous appartenons. Seigneur, je rends gloire à toi. Béni pour chacun d'entre nous, pour moi-même, pour toute l'Église, pour le corps de Christ, pour ceux qui sont absents pour des raisons que tu connais. Étends ta main que le souffle de ta grâce les atteigne là où ils sont, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.